9h12 sur France Inter. Le journal avec vous, Yves Decamp.
Bonsoir. Vers une abstention record au second tour des municipales, 59% selon les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria, soit 1,5 point de plus qu'au premier tour en considérant les seules communes qui votaient aujourd'hui. L'épidémie de Covid-19 est passée par là, mais toutes les précautions avaient été prises. Il y a donc sans doute aussi d'autres raisons. On en parle juste après ce journal avec vous, Claire Servageant.
Et bien effectivement, France Inter se mobilise ce soir pour vous donner les résultats de ce scrutin. On se retrouve juste après votre journal. Journal Yves avec nos spécialistes, le service politique ici en studio, sur le terrain également pour parler d'abord de la participation, puis à partir de 20h pour les premières estimations de France Inter, Ipsos Soprasteria en partenariat avec France 2 et les chaînes parlementaires. À nos côtés également des politologues, des invités politiques, mais pas seulement. Alors un conseil, Yves, restez à l'écoute.
Et dans un instant, premier retour sur les enjeux de ce scrutin dans quelques villes à suspense. Nous irons à Marseille, Le Havre et Perpignan. L'après-municipal, ce sera dès demain la réception à l'Elysée par Emmanuel Macron des 150 citoyens de la Convention pour le climat et peut-être ses premières réponses aux propositions qu'ils ou elles ont faites. Nous, on a fait le job, nous dira l'une des 150. Et puis dans ce journal également, un mot de la campagne de boycott lancée sur le net contre L'Oréal, le géant français des cosmétiques qui croyait bien faire en retirant de ses emballages toute allusion à la couleur blanche. C'est raté, nous dira Thibault Lefebvre. Enfin, la météo, des températures qui restent hautes et le soleil qui s'imposera partout demain après-midi.
France Inter.
Des élections municipales qui ne font donc pas recette après les 57,6% d'abstention du premier tour à la mi-mars. On craignait que le second ce dimanche soit pire encore dans les quelques 5000 communes concernées. Et c'est le cas selon les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. 59% des électeurs ne seront pas allés voter ce soir. C'est un record historique d'autant plus inquiétant que les municipales sont les élections habituellement les plus prisées par les Français. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes au ministère de l'Intérieur où les chiffres officiels qui ont été donnés à 17h confirment bien cette tendance avec sans doute beaucoup de disparités selon les régions.
Oui, à 17h, il y avait donc au niveau national 65,33% d'abstention. Et c'est donc dans les départements à forte densité urbaine que les électeurs se sont, jusqu'à 17h, le moins déplacés. La région parisienne occupe le bas de ce tableau de la participation, ainsi que l'Ille-et-Vilaine, la Gironde et la Haute-Garonne. Il n'y a eu que 24% de votants à Paris à 17h, 21,5% en Seine-Saint-Denis. À l'inverse, ce sont dans les départements ruraux que les électeurs se sont le plus déplacés en journée. La palme revenant à la Corse du Sud avec 71% de participation. Alors ce chiffre à 17h donne beaucoup d'indications. 65,3% d'abstention, c'est 18 points de plus qu'au second tour de 2014 et 20 points de plus qu'au second tour des municipales 2008. Alors autant dire qu'ici, au ministère de l'Intérieur, on a sorti les tableaux, les graphiques, les statistiques, les calculettes. Et sachez que si les tendances de 17h se confirment dans les mêmes proportions jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 20h, on s'achemine lentement mais sûrement vers le taux d'abstention le plus élevé de la Ve République, tout scrutin confondu, européenne, présidentielle, législative, régionale, départementale et municipale donc.
Jean-Philippe Degnaud, Place Beauvau. Faut-il mettre cette abstention record sur le dos du coronavirus ? Sans doute en partie, même si tout un protocole sanitaire avait été mis en place dans les bureaux de vote. On va y revenir. Peut-être les enjeux de ce second tour n'étaient-ils pas jugés suffisamment importants par les électeurs. Et pourtant, le suspense était total. Il l'est toujours dans quelques-unes de nos plus grandes villes, Lyon et Marseille notamment. À Marseille, où se joue l'après Gaudin, Olivier Martoc, le résultat devrait être très serré ce soir.
Ah bah surtout Yves, si le taux de participation de 17h se maintient, ici il était de 27%, un point de moins qu'au premier tour, et sauf ruée dans les bureaux de vote dans l'heure qui vient, ça signifie qu'à peine un tiers des Marseillais se seront déplacés pour élire le successeur de Jean-Claude Gaudin. À titre de comparaison, en 2014, le taux de participation au second tour avait été à Marseille de plus de 55%. Alors à Marseille, comme à Paris et Lyon, vous le savez, on vote par secteur, il y en a 8, avec des duels, des triangulaires, des quadrangulaires, et vu le nombre d'électeurs, ça risque de se jouer à quelques voix près dans certains arrondissements de la ville. Toute la journée, le scrutin s'est déroulé sous très haute surveillance, notamment pour les procurations. Il y en avait près de 7000 et elles étaient scrutées à la loupe, illustration de cette défiance généralisée, avec le président du bureau de vote, 770.
Ce matin, il y a eu 3 procurations qui étaient douteuses. Nous sommes devenus quand même très très méfiants. Nous avons été tous d'accord, tout le bureau, c'est-à-dire les assesseurs de tous les partis, pour annuler les procurations qui étaient douteuses. Puis finalement, j'ai appelé la mairie. Après vérification, ces procurations étaient valides. Mais c'est sûr qu'on est dans un climat, je ne dirais pas de tension, mais de vigilance et de méfiance légitime.
Alors toutes les listes avaient des assesseurs en nombre dans les 403 bureaux de vote de la ville. Ou à la différence de ce qui s'était passé au premier tour, il n'y a pour l'instant pas eu de gros problèmes signalés, Yves.
Olivier Martoc à Marseille avec Martin Troadec. Il y a du suspense aussi ce soir du côté de Strasbourg, Toulouse, Montpellier. On va suivre également tout particulièrement la situation au Havre où le Premier ministre joue son avenir à Matignon. Jouait puisque les bureaux de vote sont maintenant fermés au Havre. Où vous vous trouvez, Karine Bécart? Alors c'est assez simple pour Édouard Philippe ce soir. S'il gagne, il a l'embarras du choix entre Paris ou la Normandie. Et s'il perd, eh bien il perd sur les deux tableaux.
Bah c'est exactement cela, Yves. C'est une soirée assez inconfortable en réalité qui se joue ce soir au Havre pour le Premier ministre, parce que effectivement, soit il remporte cette élection et ce sera alors au président Macron de décider s'il restera dans sa ville du Havre ou s'il a encore besoin de lui comme Premier ministre à Matignon, soit Édouard Philippe perd cette élection et dans ce cas-là, on voit mal comment il pourrait continuer à diriger un gouvernement, à participer à la conduite du pays quand le suffrage universel vous a désavoué dans votre propre fief, son fief depuis 10 ans maintenant. Voilà à peu près les 3 principaux scénarios. Il y a 6 ans, les choses étaient beaucoup plus simples pour le député Philippe qui avait été réélu dès le premier tour avec 52% des voix. Cette fois, il est le chef du gouvernement, très occupé, trop occupé à Paris, comme l'a souvent répété son adversaire, le député communiste Jean-Paul Lecoq, qui a réussi une assez belle campagne, 36% au premier tour contre 43% pour Édouard Philippe, qui a priori n'a plus beaucoup de réserves de voix pour ce second tour ce soir.
Karine Bécart au Havre avec Stéphane Beaufils. Parmi les grands enjeux de ce scrutin, on regardera également le degré de résistance du PS et des Républicains, toujours bien implantés localement, le degré de progression des Verts qui vise plusieurs mairies importantes, et la situation du Rassemblement National dont tous les espoirs reposent sur Perpignan. Maxence Lambrecq, en cas de victoire, ce serait la première ville de plus de 100 000 habitants gagnée par le parti de Marine Le Pen depuis Toulon en 95.
Eh oui, les visages sont tendus ici, les yeux rivés sur les téléphones, les bureaux de vote ont fermé il y a 1 heure, le dépouillement touche à sa fin et ce stress dépasse largement la plaine du Roussillon à Nanterre, au siège du RN. On attend en effet qu'un seul résultat ce soir, c'est Perpi à tout prix. Si Louis Alliot fait basculer Perpignan, le parti à la flamme aura une nouvelle vitrine qui occultera toutes les autres contre-performances. Ailleurs, les chances de conquête pour Marine Le Pen sont bien minces. Son ancien compagnon a donc la pression, c'est sa 4e candidature au municipal ici. Et il fait face, comme en 2014, au second tour, au maire sortant LR, Jean-Marc Pujol, 71 ans, héritier de la dynastie Alduy, le père, le fils, la même majorité ici depuis 1959. Alors la capitale des Pyrénées-Orientales va-t-elle tenter l'aventure RN comme sa voisine Béziers? Le front républicain déjà fissuré va-t-il finalement céder ou résister et signer l'échec du RN dans cette séquence municipale? Les Perpignanais se sont en tout cas mobilisés massivement, 8 points de participation de plus par rapport au premier tour, 47% contre 39%, le signe d'un scrutin majeur pour l'histoire de la ville.
Maxence Lambrecq à Perpignan avec Thomas Robin. Voilà pour les grands enjeux de ce second tour dont on reparle juste après ce journal et jusqu'à 20h, en ayant donc en tête ce faible taux de participation estimé à 41%. Se rendre au bureau de vote ne présente pourtant pas plus de risques d'un point de vue sanitaire que de se rendre dans les boutiques ou les cafés. Toutes les mesures de précaution avaient été prises, rappelons-le, illustration dans cette école de Clermont Montferrand, où s'est rendu Michaël Chailloux.
À 8h ce matin, une file d'attente s'est rapidement formée autour du bureau de vote 404. Anne-Marie et Thierry étaient les premiers.
C'est important. En tant que femme d'abord, parce que j'ai le droit de vote. Et puis, il faut donner son avis pour la cité. malgré la maladie, on a fait ce qu'il faut, le gel, le tout.
La maladie toujours présente à l'esprit avec ce sens de direction pour rentrer dans le bureau de vote, le gel hydroalcoolique au tout début du parcours et ces masques obligatoires qui n'ont pas dérangé Nicole.
Ah mais moi mon masque, je descends de mon appartement, je mets mon masque en sortant. Il n'y a aucun problème, ils ont tous des visières, ils ne prennent pas les documents, ils les regardent. Moi j'ai mon propre stylo, je signe. Bon, j'ai vu que devant moi il y avait un monsieur, il n'avait pas emporté de stylo. Bon, je veux dire, qu'est-ce que ça coûte d'emporter un stylo ?
Pas de panique si ça se produit, les assesseurs ont de quoi s'arranger, nous dit Jean-Jacques, pour la sixième fois le président de ce bureau de vote clermontois.
À 90%, ils viennent avec leur stylo. Sinon, on leur prête un stylo qu'on désinfecte du jus derrière. Ils respectent vraiment la distanciation, ils viennent avec un masque, j'ai entièrement confiance.
Et dans son bureau de vote le 15 mars dernier, un peu moins de la moitié des électeurs s'étaient présentés. Une limite que Jean-Jacques espère avoir franchie ce soir.
À voter.
Voilà, les élections municipales au temps du Covid. Les bureaux de vote sont encore ouverts dans les plus grandes villes. Émission spéciale à suivre juste après ce journal avec à partir de 20h les résultats, les analyses et les premières réactions. Pas de soirée électorale en revanche sur BFM. Les salariés en grève contre les suppressions de postes annoncées par le groupe ont voté la suspension du mouvement, mais seulement à partir de demain matin. Après la page des municipales, c'est une autre période qui s'ouvre demain dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, lequel avait lui-même annoncé qu'il allait se réinventer. Tout commence demain matin à l'Élysée, où les 150 citoyens de la Convention pour le climat vont aller lui présenter leurs propositions, auxquelles peut-être il apportera dès demain de premières réponses. Ce qu'on attend de lui, disait ce matin dans le JDD Laurence Tubiana, co-présidente de cette convention, c'est du sérieux et de l'honnêteté, et que le travail accompli depuis 9 mois ne soit pas effacé par quelques mesures décriées comme le 110 km/h sur les autoroutes. Et c'est aussi ce qu'espère Mélanie, auxiliaire de vie dans la Sarthe. Elle a été tirée au sort parmi les 150 pour intervenir demain à l'Élysée et confier ses espoirs à Sandy Dauphin.
La mesure à 110, c'est un des éléments, mais c'est un ensemble. Les propositions sont interdépendantes, on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Le 110, c'est réduire la vitesse sur autoroute, mais à côté, on veut développer le ferroviaire, on veut développer les pistes cyclables, on veut développer tous les transports en commun, le covoiturage, enfin aider à l'achat des voitures propres. Mais nous, on le savait, hein, quand l'idée a été lancée en deuxième session de la convention, on a tous levé nos boucliers contre la personne qui a émis l'idée et on a dit, mais ça va être la guerre. Et en fait, on a cherché, on s'est renseigné, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette mesure avait un impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Nous, c'est notre lettre de mission, trouver des solutions pour réduire les émissions de... Voilà, on a fait le job maintenant, effectivement, il y en a qui plaisent pas. Après, on nous dit oui, c'est liberticide. Il y a beaucoup de pays où on roule à 110 km/h. Aux États-Unis, qui n'est pas réputée être une nation liberticide, les routes sont limitées à 110 km/h. Au Canada, c'est pareil. Hein.
Voilà, sur le même thème, le réalisateur Cyril Dion, l'un des garants de la Convention sur le climat, regrette également la mise en procès de ces derniers jours. Il rappelle que les mesures votées par les 150 citoyens ont été prises dans un esprit de justice sociale. En bref, les adieux du cardinal Barbarin au Lyonnais, après 17 ans à la tête de l'archevêché de Lyon. Il célébrait ce matin sa dernière messe en la cathédrale Saint-Jean. Relaxé en janvier dans l'affaire Préna, il avait démissionné en mars et il sera désormais à 69 ans l'aumônier du diocèse de Rennes. En bref, également l'inquiétude à Leicester au Royaume-Uni où les cas de coronavirus se sont multipliés ces deux dernières semaines avec plus de 650 contaminations. Les autorités britanniques pourraient être amenées à reconfiner la population alors que le reste du pays s'apprête à rouvrir les restaurants, les pubs et les musées. En Chine, ce sont près d'un demi-million de personnes qui ont été reconfinées au total en plusieurs endroits près de Pékin. Des écoles ont été refermées, des zones résidentielles bouclées. Et puis en Iran, pareillement, le gouvernement annonce de nouvelles mesures restrictives et rend notamment le masque obligatoire dans certains lieux publics. Allez, c'est ce qui s'appelle une opération de com ratée. On en parlait ici même hier. Le groupe L'Oréal avait annoncé qu'il retirait de ses emballages de produits cosmétiques les mots blanc, blanchissant ou clair, des mots qui pourraient être mal reçus dans l'actuel contexte mondial antiraciste. Le géant français des cosmétiques, à l'instar de son concurrent Unilever, avait cru bien faire. Mais que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, c'est une campagne de boycott sur les réseaux sociaux qui se déclencha, Thibault Lefèvre.
Si L'Oréal ne veut plus de blanc, moi je ne veux plus qu'il me fasse bronzer. C'est le type de message posté depuis hier sur les réseaux sociaux, avec le plus souvent en illustration une vidéo d'un produit cosmétique filmé en plongée puis jeté à la poubelle. La campagne de boycott a été lancée autour du hashtag J'arrête L'Oréal. Il existe désormais une image avec un lettrage blanc en capitale sur fond noir, très semblable au visuel Je suis Charlie. Il a été partagé et est encore partagé ce soir par des dizaines de milliers d'internautes. Le problème, c'est que ce mouvement, semble-t-il spontané, prend depuis quelques heures une tournure politique. Plusieurs comptes liés à l'extrême droite se sont emparés de la polémique et relaient désormais ces messages en y ajoutant le hashtag racisme anti-blanc. Une dérive favorisée par l'intervention de personnalités politiques clivantes comme le souverainiste Philippe de Villiers. Il a demandé hier dans un tweet, je cite, à tous les Gaulois réfractaires d'arrêter L'Oréal après avoir condamné la communication du géant des cosmétiques qu'il juge racialiste.
Thibault Lefebvre, et ce dimanche, ce sont des inscriptions bel et bien racistes qui ont été découvertes sur les photos de trois athlètes français ornant la clôture de l'INSEP à Paris-Vincennes, notamment sur la photo du judoka Teddy Riner. Tout mon soutien aux athlètes et à ceux qui se sentent salis, a réagi ce soir la ministre des Sports, Roxana Maraciné, à nous.